L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.
16h20, nous sommes toujours en direct, deuxième journée édition 2023 du Salon des maires d'Île-de-France. Et maire il y a sur le plateau, on ne pouvait pas, d'ailleurs on ne doit pas clôturer le Salon de la MIF sans lui. Il est le maire du 17e arrondissement, c'est Geoffroy Boulard. Bonjour Geoffroy.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien.
Merci d'être avec nous. On va parler bien évidemment des sujets qui touchent actuellement le territoire, mais plus largement aussi la position de l'élu local. Et je suis accompagné de Laurent Nataf, le directeur général d'Homelior. Ça va Laurent?
Très bien, et vous?
Voilà, le grand spécialiste national de la rénovation énergétique, et Dieu sait que c'est le chantier du siècle, et qui est un vrai sujet, surtout sur Paris. Première question, Geoffroy Boulard. Voilà, à brûle pour point, comme ça, le sentiment à chaud. Cette édition, elle a cartonné, puisqu'on n'a jamais vu autant de monde. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous voyez les maires franciliens se réunir là, en juin?
C'est toujours un moment important, on a des territoires très différents, mais on a besoin de se retrouver. Et on est la tête dans le guidon toute l'année. Et le fait de pouvoir se retrouver, se rassembler, discuter, retrouver des partenaires avec lesquels on travaille, et puis prendre des idées aussi qui fonctionnent bien, bah ça fait du bien, ça régénère. Donc c'est vrai qu'il y a eu une belle journée hier, une belle journée aujourd'hui, avec beaucoup d'élus locaux qui se sont mobilisés, qui sont présents.
Oui.
Voilà, et entre élus, on a besoin aussi de cette communauté, cette fraternité, je dirais, municipale. C'est important, il y a beaucoup d'enjeux. On parle beaucoup de la défiance, de la violence à l'encontre des élus locaux. Nous, on a besoin de se retrouver aussi entre nous pour voilà, reprendre un peu de force, parce que ce qu'on fait, c'est au service des habitants, pour améliorer la qualité de vie, améliorer le quotidien de nos habitants tous les jours. Et c'est vrai que voilà, la société, vous la connaissez, hein, la violence verbale, physique, qui est inadmissible d'ailleurs. Mais
est-ce que vous le vivez? Parce que j'ai vu que vous êtes manifesté pour le soutien de vos collègues lorsqu'il y a eu des choses. Est-ce que vous, dans le 17e arrondissement, vous avez eu parfois des moments difficiles de questionnement? Est-ce que même des fois vous vous êtes dit peut-être que, à l'instar de certains de vos collègues en zone périurbaine, bon, je prends toujours comme exemple Stéphane Gatignon qui a lâché ce moment parce qu'il n'en pouvait simplement plus. Est-ce qu'il y a parfois vous êtes mu par le doute, une certaine forme de voilà de désespérance face à aussi un État centralisateur, un peu jacobin, qui ne cesse finalement de renier vos marges de manœuvre?
On a aussi une mairie centrale très jacobine. Hein, donc oui, quand on est un maire d'arrondissement, on est toujours ravi d'avoir davantage de pouvoir et de transfert de compétences sans aller jusqu'à l'indépendance. Donc on exerce aussi ce rôle, hein, d'aller chercher des compétences pour servir nos administrés. Non, j'ai pas été confronté à des menaces physiques, mais des moments de violence, d'agressivité. Beaucoup d'agressivité. Mais bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui, dans une société où on doit, nous les élus, mettre en place des instances d'échange, de concertation, de dialogue direct, pour qu'on quitte un peu nos smartphones, nos claviers, et qu'on rentre en relation. Et je pense qu'on le voit là, après le Covid, la demande est forte. Moi je fais le mois de juin, comme beaucoup de maires, on est sollicité sur des fêtes d'école, des fêtes de quartier, beaucoup d'événements là au mois de juin, après mois de mai un peu gruyère en termes de jours ouvrés, et donc on voit bien qu'il y a une volonté, il y a une soif de se rencontrer et de créer du lien social qui nous a manqué pendant le Covid, avec un contexte d'inflation. Je pense qu'il faut multiplier ces moments. En tout cas, moi j'essaie de le faire dans le 17e. On a fait des fêtes des voisins comme on n'a jamais fait cette année, qu'on étale sur tout l'été, en leur disant à nos habitants, à nos gardiennes, à nos gardiens d'immeubles qui sont quand même à la... faites-en en septembre.
Vous avez des administrés qui sont en demande de lien social. Hein.
Tout à fait.
Vraiment.
C'est très fort.
Quelque chose qui revient. Alors vous avez la réputation dans le métier, dans la presse journaliste, d'être un homme centré sur l'innovation, sur les techniques du numérique. On vous voit beaucoup, hein, beaucoup là-dessus. Et vous faites partie d'une génération d'élus aussi très moderne, très pragmatique, c'est-à-dire en dehors même des clivages politiques, d'ailleurs, puisque vous n'avez que comme ce souci, finalement, celui du bien-être de vos administrés. Mais vous êtes aussi confronté, justement, aux affres, finalement, de la décision de la mairie centrale, dans une certaine mesure, parce que, quelque part, ça rogne aussi vos marges de manœuvre. Je voudrais qu'on parle, par exemple, d'un sujet à Paris, qui est un sujet dans lequel on est très contraint, qui est celui de la rénovation énergétique et de la transition environnementale et énergétique, qui est un vrai sujet. On sait que dans Paris, la rénovation par l'extérieur, C'est juste pas possible. Dans le 17e, il y a des immeubles classés, vous le savez, vous ne pouvez pas le faire. Comment on fait quand on est maire d'un arrondissement aussi grand que le 17e arrondissement, avec un patrimoine juste magnifique, pour justement faire cette transition, et je profite de la position de Laurent sur ces problématiques-là, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce qu'honnêtement, on peut vraiment se dire que les bâtiments haussmanniens qu'on a dans le 17e, dans votre territoire, on peut vraiment les transformer énergétiquement? Est-ce que c'est réellement possible?
Alors, vous l'avez dit, on a une diversité bâtimentaire dans le 17e arrondissement. Et il y a des quartiers haussmanniens, il y en a d'autres qui n'ont pas ces constructions haussmanniennes, qui ont plutôt des réalisations des années 70, ont des passoires thermiques. Donc, vous dire qu'on va régler le problème, c'est pas simple dans l'haussmannien. Faut pas se raconter d'histoire. Ce qui nous est imposé par l'État, je dis nous, au sens de la communauté hein, du 17e, et c'est irréaliste de dire qu'on va réussir sur les objectifs. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement soit à l'écoute aussi de la réalité, de ce que font remonter les maires sur ce qui va pouvoir être fait, et notamment dans le bâtiment haussmannien ancien. Voilà, on sait très bien que les DPE, par exemple, là, on a un sujet. Je ne comprends pas que le gouvernement bouge pas sur ce sujet. On les a alertés depuis longtemps. Les objectifs qui ont été mis en place ne sont pas réalistes. Ça ne veut pas dire que les professionnels de l'immobilier, les maires, ne veulent pas avancer sur ces sujets, c'est simplement que ça n'est pas réaliste au regard de la masse à traiter, et puis surtout de la difficulté de financement, la difficulté aussi pour les entreprises d'avoir du personnel qualifié pour répondre à ces enjeux de rénovation. Alors, moi, j'estime que la rénovation énergétique des bâtiments, elle est essentielle. Elle est essentielle, et donc les maires, les élus locaux doivent montrer l'exemple. Parce qu'on demande aux administrés, aux copropriétés, un certain nombre de se mettre aux normes. Et donc,
vous parlez des bâtiments publics.
Oui, eh bien de commencer par les bâtiments publics. Montrons l'exemple.
Un vrai sujet.
Montrons l'exemple.
Eh oui.
Et donc là-dessus, moi j'ai engagé, et mes prédécesseurs l'avaient fait avant moi, un programme, par exemple, pour rénover notre bâtiment communal, enfin d'arrondissement, qui est la mairie.
Oui.
On a commencé il y a...
La mairie des Batignolles, qui est un COVID. Bâtiment très moderne, hein, d'ailleurs.
Oui, années 73, on fête les 50 ans. Ouais. D'ailleurs, sur le mois de juin, dans l'arrondissement, eh bien, on a décidé et on a mobilisé des fonds pour pouvoir rénover énergétiquement la façade de la mairie. Bon, c'est des constructions aluminium, passoires thermiques, et puis végétaliser en plus ce bâtiment. On a déjà constaté des économies en matière de dépenses énergétiques. Hein. On a économisé 10% là sur un an et demi, donc c'est intéressant. Ça montre que voilà, ça fonctionne. Mais il faut que les maires s'investissent et s'engagent. Et vous imaginez, sur le patrimoine municipal et dans un arrondissement comme le nôtre, on a 60 établissements scolaires, on a un nombre d'équipements importants. Eh bien, il faut qu'on s'engage là-dessus. On ne peut pas demander uniquement à nos administrés de s'y mettre, de mettre la main au portefeuille sans nous faire l'effort et être vertueux et monitorer tous nos bâtiments et rechercher les économies. Donc il y a un programme qu'on met nous dans le 17e en place parce que je pense qu'aujourd'hui on doit montrer l'exemple.
Sur des territoires justement comme le 17e, on connaissait très très bien le secteur. Est-ce que les difficultés de rénovation énergétique, vous les rencontrez de la même façon, Laurent Natal ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on parle d'immeubles haussmanniens, quand on parle de centre-ville, la rénovation énergétique doit clairement s'adapter à ce type de bâtiment. Les dispositifs, les obligations mises en place ne sont pas forcément faites pour tout le monde et pour justement pour tous les bâtiments.
Comment on finance la rénovation énergétique des bâtiments publics ?
Il y a des dispositifs au niveau de l'État, ça a été réannoncé.
Parce que déjà, vous avez des dotations en baisse.
Voilà, mais là-dessus, il y a des dispositifs d'État. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le gouvernement et sur lesquelles la mairie de Paris, la mairie d'arrondissement peuvent s'appuyer. La métropole du Grand Paris a aussi, je reprends ma casquette de vice-président en charge de la communication, a aussi un programme sur le sujet de la rénovation énergétique, je pense, des bâtiments publics, mais aussi des zones pavillonnaires avec un dispositif particulier où on offre des heures de conseil, on accompagne dans les audits un certain nombre de copropriétés et de ménages. C'est aussi ce qu'on a cherché à développer au niveau de cette collectivité qui regroupe 7,2 millions d'habitants dans la zone dense et qui regroupe 131 communes.
Vous opérez beaucoup sur le 17e arrondissement, chez Aumélior ?
Alors peu sur le 17e arrondissement. Nous sommes, au départ, c'est vrai, spécialisés sur les passoires thermiques. Donc on va se concentrer sur des constructions allant des années 50 à la fin des années 70. extrêmement présent sur le Grand Paris.
Ouais, zone périurbaine, voilà, première, deuxième couronne, bien
sûr. Tout à fait, que ce soit sur du collectif, donc immeuble, hein, construit notamment dans les années 70, et là on retrouve le plus de passoires thermiques, et spécialisé sur la maison individuelle, avec une présence très très forte sur la banlieue parisienne, puisqu'on a réalisé à peu près entre 30 et 40 000 chantiers sur l'Île-de-France.
C'est considérable. Dernière question, parce que je sais que vous devez partir. La rentrée politique s'annonce mouvementée. Très mouvementé, vous le savez, le stock de location sociale et privée n'a jamais été aussi bas depuis plus de 40 ans. Et on a quelques centaines de milliers de personnes qui vont être en demande de logement dès septembre. Quand on est un homme politique comme vous, que vous voyez ce qui est en train de se passer, vous hésitez entre colère, mépris, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que, inévitablement, ces administrés, les jeunes, etc., ils vont taper à la porte de la mairie du 7e hein, pour espérer avoir un logement, non?
Il y a une crise du logement, il faut se le dire. Aujourd'hui, les annonces du gouvernement...
Avec le CNR, c'est une catastrophe.
...sont pas à la hauteur des enjeux.
Ah, vous êtes poli, là, c'est bien.
Non, mais ils sont pas à la hauteur des enjeux
c'est le moins qu'on puisse dire.
Du terrain. Ouais. Il y a des évolutions aussi... réglementaire dans la gestion des attributions et des demandeurs de logements sociaux qui vont revenir aux mairies, c'est-à-dire que la gestion administrative elle va revenir encore plus aux mairies, notamment pour les DALO, c'est-à-dire que l'État hop, nous refile le bébé. Les DALO, vous savez très bien ce qui se passe, hein, tout le monde est éligible aux DALO, mais finalement il n'y a pas de logement pour tous, hein, ça c'est une illusion qu'on a créée il y a très très longtemps, hein, 2005 notamment.
Vous seriez pour la suppression du DALO?
Bah, je veux dire, ça,
ou remplacer le dispositif par quelque chose.
Il faut remplacer quelque chose de réaliste, et puis après, il faut une production de logements. Donc, quand je vois des maires qui s'opposent à toute construction, je trouve ça inadmissible. Privé et public. Hein. Aujourd'hui, le bâtiment durable, il existe. On doit bien sûr avoir en tête qu'il y a des enjeux écologiques, des enjeux de réchauffement climatique, que les bâtiments sont une des sources de pollution. Parfois la principale d'ailleurs, hein. Mais aujourd'hui on sait construire beaucoup mieux. Donc à un moment donné, il faut arrêter ce bashing sur le bâtiment. Il y a des dispositifs zéro carbone, il y a beaucoup. Donc moi j'accompagne, on a une centaine de permis qui sont étudiés à la mairie du 17e en lien avec la ville de Paris. Sur le 17e, moi j'accompagne ces projets de construction de logements privés, publics, en intégrant les différents dispositifs SRU, parce qu'on a besoin de logements. Moi j'ai 9000 demandeurs en attente dans le 17e. Il y en a 160 000 à l'échelle de Paris, intramuros. Bon, on ne peut plus gérer cette demande de logement avec le contexte que vous citiez pour septembre, uniquement dans un périmètre contraint, intra-périphérique. Ça n'est plus possible. Il faut une vision qui doit être métropolitaine du logement et qui doit être partagée, qui doit être équilibrée. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a le sujet du coût, du financement. Et moi, j'estime que le PLU de Paris dit bioclimatique ne produira pas ses effets. Ce sera un PLU qui ne sera pas sans effet et qui sera sans effet bioclimatique. Pourquoi ? Parce que quand vous interdisez toute construction, quand vous menacez très sérieusement le droit de propriété en imposant à un certain nombre d'investisseurs, notamment dans les immeubles de bureaux, du logement et du logement social, on sait que ça n'est pas économiquement viable. Et on le sait très bien. Mais la méthode de la mairie de Paris, c'est une méthode digne d'une république bananière, je le dis. Sur le pastillage notamment. Un certain nombre d'investisseurs, on leur dit non mais vous avez une pastille sur votre bâtiment qui fait que demain, on peut préempter. Et donc, à tout moment, la valeur de votre va être divisée par 47% en moyenne, hein, va baisser de 47%. Et donc, on vous dit non, mais c'est pas grave. On dit aux investisseurs, c'est pas grave. Oui, oui. On négociera. Ça, c'est pas digne de la capitale. C'est pas digne. Et comme par hasard, on n'a aucun pastillage sur des immeubles qui appartiennent à des investisseurs étrangers. Et j'ai pas peur de le dire. Qatari, Emirati. Pas une pastille de la ville de Paris. Alors, on est allé évidemment sur des grands institutionnels français, bancaires ou assurantiels, bien connus.
Très juste.
Et tout ça n'est pas normal.
Très juste.
Au nom du bioclimatisme, c'est pas vrai. Ce PLU va nous faire perdre des investisseurs dans la capitale. On en a déjà perdu. Parce qu'on ne favorisait pas la construction. Parce qu'on imposait, la ville de Paris imposait un certain nombre de règles inadmissibles. Il y a des grands groupes groupes bancaires qui voulaient créer dans Paris ces 10 dernières années, qui ne l'ont pas fait parce que la ville de Paris a imposé des méthodes qui ne sont pas dignes du 21e siècle. Donc oui, on a un besoin de logement, mais le rôle des élus, c'est aussi d'accompagner ça de manière responsable, de manière durable, avec les enjeux de réchauffement. Et là, les choses ont beaucoup évolué. Il faut
avoir les Parisiens avec soi si on veut que ça change.
Ça, c'est sûr qu'il y a un gros sujet de proposer une alternance à Paris.
Anne Hidalgo a été réélue.
Tout à fait. Elle a une légitimité démocratique que moi, je ne lui conteste pas.
On ne peut que souscrire à ce que vous dites. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous le dis, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'est pas d'hier. Vous avez une vue très pragmatique et très moderne. D'ailleurs, ça me rappelle certains propos à une autre époque de Jacques Chirac, par exemple, pour vous donner une idée. Encore une fois, on a quand même des administrés qu'il faut embarquer. Est-ce que vous, très concrètement, et ce sera ma dernière question, vous arrivez à embarquer vos administrés dans le 17e?
Vous
avez gagné les élections, donc c'est déjà pas mal. Non,
mais voilà. Moi, j'essaie d'avoir une politique...
C'est quoi le rendez-vous? C'est les prochaines législatives? Il y a un combat pour Paris, vous êtes d'accord?
Non, le prochain combat, il est d'abord de fédérer des énergies qui veulent changer Paris et qui veulent communiquer une autre vision de Paris aux administrés, aux Parisiens, et de les emmener sur un projet parisien, un autre projet. Voilà, ça fait 25 ans qu'on a la même équipe. Au bout de 25 ans, on est un peu fatigué. Et l'alternance a du bon dans le pays aussi, elle a du bon. Il ne s'agit pas de déconstruire ce qui a été fait.
Non, mais on est d'accord.
Il s'agit aussi d'améliorer, de rectifier et de remettre Paris au rang,
bien sûr,
à laquelle elle a toujours été, c'est-à-dire la plus belle ville du monde, mais c'est celle où on vit le mieux. Parce que c'est ça qui aujourd'hui est dommageable. On rencontre des Parisiens qui nous disent que ça ne vaut plus le coup d'habiter Paris. Moi, je suis élu parisien, je suis originaire de Normandie. Quand je suis arrivé à Paris, tout était possible. Aujourd'hui, j'entends dans tous mes quartiers qui sont très différents du 17e, qui ressemblent un peu à Paris, un désamour.
Il y avait un article qui passait qui dit « Ceux qui aiment Paris, quittent Paris ». Ceux qui aiment Paris, qui est de Paris. Voilà, on a explosé le temps, malheureusement, on aurait aimé vous garder plus longtemps. Merci Geoffroy Moulin.
Merci à vous
passé.
Et pardonnez-moi.
Je rappelle que vous êtes le maire du 17e arrondissement, c'est important aussi. Et merci Laurent Nataf d'avoir donné cet éclairage sur la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet. Et on se reverra toujours avec beaucoup de plaisir. A tout de suite.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.